Dernier chapitre 5. Statira, suivie de Gigès, arriva devant une petite porte dont elle fit tomber le loquet en tirant un anneau d'argent attaché à une bande de cuir et se mit à monter un escalier aux marches assez roides pratiquées dans l'épaisseur du mur. Au haut de l'escalier se trouvait une seconde porte qu'elle ouvrit au moyen d'une clé d'ivoire et de cuivre. Dès que Gigès fut entré, elle disparut sans lui expliquer autrement ce qu'on attendait de lui. La curiosité de Gigès était mêlée d'inquiétude. Il ne savait trop ce que pouvait signifier ce message mystérieux. Il lui avait semblé vaguement reconnaître dans l'iris silencieuse une des femmes de Nicia, et le chemin que lui avait fait suivre conduisait aux appartements de la reine. Il se demandait avec terreur s'il avait été aperçu dans sa cachette ou trahi par Candole, car les deux suppositions étaient probables. À l'idée que Nicia savait tout, des sueurs brûlantes et glacées lui montèrent à la figure. Il essaya de fuir, mais la porte avait été fermée sur lui par Statira, et toute retraite lui était coupée. Il s'avança donc dans la chambre assombrie par d'épaisses draperies de pourpre, il se trouva face à face avec Nicia. Il crut voir une statue qui venait au vent de lui tant elle était pâle. Les couleurs de la vie avaient abandonné son visage. Une faible teinte rose animait seulement ses lèvres. Sur ses tempes attendries, quelques imperceptibles veines entrecroisaient leur réseau d'azur. Les larmes avaient meurtri ses paupières et tracé des sillons luisants sur le devant de ses joues. Les teintes de chrysoprase de ses prunelles avaient perdu de leur intensité. Elle était ainsi plus belle et plus touchante. La douceur avait donné de l'âme à sa beauté marmoréenne. Sa robe en désordre, à peine rattachée à son épaule, laissait voir ses bras nus, sa poitrine et le commencement de sa gorge d'une blancheur morte. Comme un guerrier vaincu dans un premier combat, sa pudeur avait mis bas les armes. À quoi lui servit les draperies qui dérobent les formes, les tuniques aux plis précieusement fermées? Gigès ne la connaissait-il pas? Pourquoi défendre ce qui est perdu d'avance? Elle alla droit à Gigès, et fixant sur lui un regard impérial plein de clarté et de commandement, elle lui dit d'une voix brève et saccadée « Ne mens pas, ne cherche pas de vain subterfuge, aie du moins la dignité et le courage de ton crime. Je sais tout, je t'ai vu. Non, pas un mot d'excuse, je ne l'écouterai pas. Candole t'a caché lui-même derrière la porte. N'est-ce pas ainsi que les choses se sont passées? Et tu crois sans doute que tout est fini. Malheureusement, je ne suis pas une femme grecque face aux fantaisies des artistes et des voluptueux. Nicia ne veut pas servir de jouet à personne. Il est maintenant deux hommes dont l'un est de trop sur terre. Il faut qu'il en disparaisse. S'il ne meurt, je ne puis vivre. Ce sera toi ou Candole. Je te laisse mettre du choix. » Tue-le, venge-moi et conquiert par ce meurtre et ma main et le trône de Lydie. Aucune prompte mort t'empêche désormais de voir par une tâche complaisante ce qui ne t'appartient pas de regarder. Celui à commander est plus coupable que celui qui n'a fait qu'obéir. Et d'ailleurs, si tu deviens mon époux, personne ne m'aura vu sans en avoir le droit. Mais décide-toi sur le champ. Car deux des quatre prunelles où ma nudité s'est réfléchie doivent s'éteindre avant ce soir. Cette alternative étrange, proposée avec un sang-froid terrible, avec une résolution immuable, surprit tellement Gigès, qui s'attendait à des reproches, à des menaces, à une scène violente, qu'il resta quelques minutes sans couleur et sans voix, livide comme une ombre, sur le bord des fleuves noirs de l'enfer. Moi, tremper mes mains dans le sang de mon maître, mais est-ce bien vous, ô reine, qui me demandez un si grand forfait? Je comprends toute votre indignation, je la trouve juste. Il n'a pas tenu à moi que ce sacrilège n'eût pas lieu. Mais vous le savez, les rois sont puissants, ils descendent d'une race divine. Nos destins reposent sur leurs genoux augustes, et ce n'est pas nous, faibles mortels, qui pouvons hésiter à leurs ordres. Leur volonté renverse nos refus comme un torrent emporte une dague. Par vos pieds que j'embrasse, par votre robe que je touche en suppliant, soyez clémente. Oubliez cette injure qui n'est connue de personne et qui restera éternellement ensevelie dans l'ombre et le silence. Candaule vous chérit, vous admire, et sa faute ne vient que d'un excès d'amour. Si tu parlais à un sphinx de granit dans les sables arides de l'Égypte, tu aurais plus de chance de t'attendrir. Non, les paroles allées sembleraient sans interruption de ta bouche pendant une olympiade entière, que tu ne pourrais rien changer à ma résolution. Un cœur d'airain habite ma poitrine de marbre. Meurs ou tue. Quand le rayon de soleil qui s'est glissé à travers les rideaux aura atteint le pied de cette table, que ton choix soit fait, j'attends. Initia mit ses bras en croix sur son sein, dans une attitude pleine d'une sombre majesté. À la voir debout, immobile et pâle, l'œil fixe, les sourcils contractés et la tête échevelée, le pied fortement appuyé sur la dalle, on lui prise pour Némésis, descendu de son griffon et guettant l'heure de frapper un coupable. Les profondeurs ténébreuses de l'Hadès ne sont visitées de personne avec plaisir, répondit Gigès. Il est doux de jouir de la pure lumière du jour, et les héros eux-mêmes qui habitent les îles fortunées reviendraient volontiers dans leur patrie. Chacun a l'instinct de sa propre conservation, et, puisqu'il faut que le sang coule, que ce soit plutôt des veines de l'autre que des miennes. À ces sentiments avoués par Gigès avec une franchise antique, il s'en joignait d'autres plus nobles dont il ne parlait pas. Il était éperdument amoureux de Nicia et jaloux de Candaule. Ce ne fut donc pas la seule crainte de la mort qui lui fit accepter cette sanglante besogne. La pensée de laisser Candaule libre, possesseur de Nicia, lui était insupportable. Et puis le vertige de la fatalité le gagnait. Par une suite de circonstances singulières et terribles, il se voyait entraîné à l'accomplissement de ses rêves. Un flot puissant le soulevait malgré lui. Nicia elle-même lui tendait la main pour lui faire monter les degrés dans l'estrade royale. Tout cela lui fit oublier que Candaule était son maître et son bienfaiteur. Car nul ne peut échapper à son sort. Et la nécessité marche des clous dans une main, un fouet dans l'autre, pour vous arrêter ou vous faire avancer. « C'est bien, » répondit Nicia. « Voici le moyen d'exécution. » Et elle tira de son sein un poignard bactrien au manche de jade enrichi de cercles d'or blanc. « Cette lame est faite non avec de l'airain, mais avec du fer difficile à travailler, trempé dans la flamme et dans l'onde, et telle qu'Héphaïstos ne pourrait en forger une plus aiguë et plus acérée. » Elle percerait comme un mince papyrus les cuirasses de métal et les boucliers recouverts de peau de dragon. Le moment, continua-t-elle avec le même sang-froid de glace, sera celui de son sommeil, qui s'endorme et ne se réveille plus. Son complice Gigès l'écoutait avec stupeur, car il ne s'était pas attendu à voir une semblable résolution dans une femme qui ne pouvait prendre sur elle de relever son voile. Le lieu de l'embuscade sera l'endroit même où l'infâme t'avait caché pour m'exposer à tes regards. À l'approche de la nuit, je renverserai le battant de la porte sur toi. Je me déshabillerai, je me coucherai, et quand il sera endormi, je te ferai signe. Surtout pas d'hésitation, pas de faiblesse, et que la main n'aille pas te trembler quand le moment sera venu. Maintenant, de peur que tu ne changes d'idée, je vais m'assurer de ta personne jusqu'à l'heure fatale. Tu pourrais essayer de te sauver et de prévenir ton maître. Eh bien, non, ne l'espère pas. Nicia siffla d'une façon particulière, et aussitôt, soulevant un tapis de perse ramagé de fleurs, parurent quatre monstres basanés, vêtus de robes rayées de zébures diagonales, qui laissaient voir des bras musclés et noueux comme des troncs de chêne. Leurs grosses lèvres bouffies, des anneaux d'or qui traversaient la cloison de leurs narines, leurs dents aiguës comme celles des loups, l'expression de servilité stupide de leur physionomie les rendait hideux à voir. La reine prononça quelques mots dans une langue inconnue à Gigès, en bactrien sans doute, et les quatre esclaves s'élancèrent sur le jeune homme, le saisirent et l'emportèrent comme une nourrice à un petit enfant dans le pas de sa robe. Maintenant, quelle était la vraie pensée de Nicia ? Avait-elle en effet remarqué Gigès dans sa rencontre avec lui auprès de Bactre et gardé du jeune capitaine quelques souvenirs dans un de ces recoins secrets de l'âme où les plus honnêtes femmes ont toujours quelque chose d'enfoui ? Le désir de venger sa pudeur était-il aiguillonné par quelque autre désir inavoué ? Et si Gigès n'avait pas été le plus beau jeune homme de l'Asie, aurait-elle mis le même ardeur à punir Candaule d'avoir outragé la sainteté du mariage ? C'est une question difficile à résoudre, surtout à près de 3000 ans de distance, et quoique nous ayons consulté Hérodote, Héphestion, Platon, Docité, Archiloque de Paros, Hésicus de Milet, Ptolémée, Euphorion, et tous ceux qui ont parlé longuement ou en peu de mots de Nicia, de Candaule et de Gigès, nous n'avons pu arriver à un résultat certain. Retrouvée à travers tant de siècles, sous les ruines de tant d'empires écoulés, sous la cendre des peuples disparus, une nuance si fugitive est un travail fort difficile pour ne pas dire impossible. Toujours est-il que la résolution de Nicia était implacablement prise. Ce meurtre lui semblait l'accomplissement d'un devoir sacré. Chez les nations barbares, tout homme qui a surpris une femme nue est mis à mort. La reine se croyait dans son droit, seulement, comme l'injure avait été secrète, elle se faisait justice comme elle le pouvait. Le complice passif devenait le bourreau de l'autre, et la punition jaillissait du crime même. La main châtiait la tête. Les monstres aux teintes d'olive enfermèrent Gigès dans un recoin obscur du palais, d'où il était impossible qu'il s'échappât, et d'où ses cris n'auraient pas pu être entendus. Il passa là le reste de la journée, dans une anxiété cruelle, accusant les heures d'être boiteuses et de marcher trop vite. Le crime qu'il allait commettre, bien qu'il n'en fût en quelque sorte que l'instrument, et qu'il céda à un ascendant irrésistible, se présentait à son esprit sous les couleurs les plus sombres. Si le coup allait manquer par une de ces circonstances que nul ne peut prévoir, si le peuple de Sardes se révoltait et voulait venger la mort de son roi. Telles étaient les réflexions pleines de sens, quoique inutiles, que faisait Gigès en attendant qu'on vînt le tirer de sa prison pour le conduire à la place d'où il ne devait sortir que pour frapper son maître. Enfin, la nuit déploya dans le ciel sa robe étoilée, et l'ombre enveloppa la ville et le palais. Un pas léger se fit entendre. Une femme voilée entra dans la chambre, prit Gigès par la main et le conduisit à travers les couloirs obscurs et les détours multipliés de l'édifice royal, avec autant de sûreté que si elle eût été précédée d'un esclave portant une lampe ou des torches. La main qui tenait celle de Gigès était froide, douce et petite. Cependant, ses doigts déliés la serraient à la meurtrir, comme eussent pu le faire les doigts d'une statue d'airain animée par un prodige. La roideur d'une volonté inflexible se traduisait dans cette pression toujours égale, semblable à une tenaille que nulle hésitation, partie de la tête ou du cœur, ne venait faire vibrer. Gigès, vaincu, subjugué, anéanti, cédait à cette traction impérieuse comme s'il eût été entraîné par le bras puissant de la fatalité. Hélas, ce n'était pas ainsi qu'il aurait voulu toucher la première fois cette belle main royale qui lui tendait le poignard et le guidait au meurtre, car c'était Nicia elle-même qui était venue chercher Gigès pour le placer dans le lieu de l'embuscade. Pas une parole ne fut échangée entre le couple sinistre dans le trajet de la prison à la chambre nuptiale. La reine dénoua les courroies, souleva la barre de la porte et plaça Gigès derrière le battant, comme Candolle l'avait fait la veille. Cette répétition des mêmes actes dans une intention si différente prenait un caractère lugubre et fatal. La vengeance, cette fois, posait son pied sur chaque trace de l'insulte. Le châtiment et le crime passaient par le même chemin. Hier, c'était le tour de Candolle, aujourd'hui, c'était celui de Nicia et Gigès. Complices de l'injure, l'étaient aussi de la peine. Il avait servi au roi pour déshonorer la reine, et il servait à la reine pour tuer le roi, également exposé par les vices de l'un et par les vertus de l'autre. La fille de Mégabase paraissait éprouver une joie sauvage, un plaisir féroce à n'employer que les moyens choisis par le roi lydien et à faire tourner au profit du meurtre les précautions prises pour la fantaisie voluptueuse. Tu vas me voir encore ce soir ôter ces vêtements qui déplaisent si fort à Candolle. Ce spectacle doit te lasser, dit la reine avec un accent d'ironie amère sur le seuil de la chambre. Tu finiras par me trouver laide. Et un rire sardonique emprunté crispa un instant sa bouche pâle. Puis reprenant une figure impassible et sévère, ne t'imagine pas t'esquiffer cette fois comme l'autre. Tu sais que j'ai la vue perçante. Au moindre mouvement de ta part, j'éveille Candolle, et tu comprends qu'il ne te serait pas facile d'expliquer ce que tu fais dans l'appartement du roi, derrière une porte, un poignard à la main. D'ailleurs, mes esclaves bactriens, les muets cuivrés qui t'ont enfermé tantôt, garde les issues du palais avec ordre de te massacrer si tu sors. Ainsi que de vains scrupules de fidélité, ne t'arrête pas. Pense que je te ferai roi de Sardes, et que je t'aimerai si tu me venges. Le sang de Candolle sera ta pourpre, et sa mort te fera une place dans ce lit. » Les esclaves vinrent, selon leur habitude, changer la braise des trépieds, renouveler l'huile des lampes, étendre sur la couche royale des tapis et des peaux de bête, et Nicia se hâta d'entrer dans la chambre dès qu'elle entendit leurs pas résonner au loin. Au bout de quelque temps, Candolle arriva tout joyeux. Il avait acheté le lit d'Icmalius et se proposait de le substituer au lit dans le goût oriental qui, disait-il, ne lui avait jamais beaucoup plu. Il parut satisfait de trouver Nicia déjà rendue dans la chambre conjugale. « Ah, le métier à broder, les fuseaux, les aiguilles, n'ont donc pas pour toi les mêmes charmes aujourd'hui qu'autrefois ?» En effet, c'est un travail monotone de faire passer perpétuellement un fil entre d'autres fils, et je m'étonne du plaisir que tu sembles y prendre ordinairement. À dire vrai, j'avais peur qu'un beau jour, en te voyant si habile, Pallas Athénée ne te cassât de dépit sa navette sur la tête comme elle l'a fait à la pauvre Arachnée. Seigneur, je me suis senti un peu las ce soir, et je suis descendu des appartements supérieurs plutôt que de coutume. Vous plairait-il, avant de dormir, de boire une coupe de vin noir de Samos, mêlée de miel de limette ? Et elle versa d'une urne d'or dans une coupe de même métal le breuvage aux sombres couleurs dans lequel elle avait exprimé les sucs assoupissants d'une épintesse. Candolle prit la coupe par ses deux anses et but le vin jusqu'à la dernière goutte. Mais le jeune Héraclide avait la tête forte et le coude noyé dans les coussins de sa couche. Il regardait Nicia se déshabiller sans que la poussière du sommeil ensablât encore ses yeux. De même que la veille, Nicia dénoua ses cheveux et laissa s'étaler sur ses épaules leurs opulentes nappes blondes. Gigès, dans sa cachette, crut les voir se colorer de teintes fauves, s'illuminer de reflets de flammes et de sang, et leurs boucles s'allongeaient avec des ondulations vipérines comme la chevelure des gorgones et des méduses. Cette action, si simple et si gracieuse, prenait des choses terribles qui allaient se passer, un caractère effrayant et fatal qui faisait frissonner de terreur l'assassin caché. Nicia défit ensuite ses bracelets, mais ses mains, roidies par des contractions nerveuses, servaient mal son impatience. Elle rompit le fil d'un bracelet de grains d'ambre incrusté d'or, qui roulèrent avec bruit sur le plancher, et firent ouvrir à Candole des paupières qui commençaient à se fermer. Chacun de ces grains pénétrait dans l'âme de Gigès comme une goutte de plomb fondu tombant dans l'eau. Ses cothurnes délacées, la reine jeta sa première tunique sur le dos du fauteuil d'ivoire. Cette draperie ainsi posée produisit sur Gigès l'effet d'un de ces linges aux plis sinistres dont on enveloppe les morts pour les porter au bûcher. Tout dans cette chambre qui trouvait la veille si riante et si splendide lui semblait livide, obscur et menaçant. Les statues de basalte remuaient les yeux et ricanaient hideusement. La lampe grésillait et sa lueur s'échevelait en rayons rouges et sanglants comme l'écrin d'une comète. Dans les coins mal éclairés s'ébauchaient vaguement des formes monstrueuses de larves et de lémures. Les manteaux suspendus aux chevilles s'animaient sur la muraille d'une vie factice, prenaient des apparences humaines, et quand Nicia, quittant son dernier voile, s'avança vers le lit, blanche et nue comme une ombre, il crut que la mort avait rompu les liens de diamants dont Héraclès avait autrefois enchaîné aux portes de l'enfer lorsqu'il délivra Alceste et venait en personne s'emparer de Candole. Le roi, vaincu par la force des sucs d'une épinthesse, s'était endormi. Nicia fit signe à Gigès de sortir de sa retraite et posant son doigt sur la poitrine de la victime, elle lança à son complice un regard si humide, si lustré, si chargé de langueur, si plein d'enivrantes promesses, que Gigès, éperdu, fasciné, s'élança de sa cachette comme le tigre du haut d'un rocher d'où il s'est blotti, traversa la chambre d'un bond et plongea jusqu'aux manches le poignard bactrien dans le cœur du descendant d'Hercule. La pudeur de Nicia était vengée et le rêve de Gigès accompli. Ainsi finit la dynastie des Héraclides après avoir duré 500 ans et commença celle des Mémanades dans la personne de Gigès, fils de Dacilus. Les Sardiens, indignés de la mort de Candole, firent mine de se soulever. Mais l'oracle de Delphes s'étant déclaré pour Gigès, qui lui avait envoyé un grand nombre de vases d'argent et 6 cratères d'or du poids de 30 talents, le nouveau roi se maintint sur le trône de Lydie, qu'il occupa pendant de longues années, vécut heureux, oh, il ne fit voir sa femme à personne, sachant trop ce qu'il en coûtait.